Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, Saad Hariri, nommé Premier ministre au Liban. Il revient à ce poste pour la 4e fois, alors qu'il avait dû démissionner il y a un an en raison d'une vaste mobilisation populaire.
Donald Trump face à Joe Biden cette nuit à la télévision. Il s'agira du 2e et dernier débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine et des règles ont été mises en place pour éviter que l'exercice vire à nouveau au règlement de compte.
Il y a 10 ans, les révélations de WikiLeaks sur la guerre en Irak. Des centaines de milliers de documents américains secrets rendus publics et qui ont mis en lumière des actes de violence perpétrés par la coalition internationale.
Et puis le prix Sakharov, décerné à l'opposition démocratique en Biélorussie, annonce aujourd'hui du Parlement européen.
Le journal en français facile.
Au Liban, le retour de Saad Hariri.
Oui, 3 fois Premier ministre, le revoilà à ce poste. Alors, pas sûr que cela apaise la crise sociale qui touche le Liban, car Saad Hariri avait dû démissionner il y a un an après une vague de mobilisation populaire contre l'ensemble de la classe politique. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. La formation du gouvernement, donc, s'annonce délicate. Cependant, cette nomination s'est faite lors des consultations parlementaires et elle était attendue à Beyrouth pour RFI, Laure Stéphane.
Comme prévu, Saad Hariri a été désigné Premier ministre et il n'a obtenu qu'une courte majorité. Sur les 120 députés actuellement en poste, seuls 65 l'ont nommé. Des blocs importants comme ceux du Hezbollah, du parti fondé par le président Michel Aoun ou des forces libanaises n'ont pas apporté leur soutien à Saad Hariri pour des raisons différentes. Mais ils n'ont pas proposé de concurrent, ils n'ont donc pas entravé sa possible prise de fonction. La tâche s'annonce maintenant ardue, former un gouvernement et obtenir l'aval du Parlement. Saad Hariri a dit vouloir s'inscrire dans le cadre de l'initiative française au Liban et vouloir composer une équipe de spécialistes non partisans. Cette formulation fait grincer des dents ses adversaires. Il est lui-même un politicien. Le Liban n'a pas le luxe de longues négociations, comme cela se passe souvent. Le pays est en banqueroute. Il est sommé d'enclencher des réformes pour espérer obtenir des fonds internationaux. Le retour de Saad Hariri est un camouflet pour la contestation qui réclame toujours un renouveau politique. Mais les dirigeants mènent leur propre lutte interne pour le pouvoir, loin des revendications de la rue. Il compte sans doute encore moins les écouter que la contestation s'est essoufflée. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Et les réactions? Le coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban ne s'est pas montré très optimiste. Ce sont les forces politiques traditionnelles qui, encore une fois, ont choisi la marche à suivre malgré leurs nombreux échecs du passé, affirme-t-il.
Aux États-Unis a lieu cette nuit le 2e et dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden à 12 jours maintenant de l'élection présidentielle.
Oui, on se souvient du premier débat marqué par des échanges extrêmement violents. Alors est-ce que le ton sera le même lors de ce second exercice? Réponse donc à partir d'1h du matin, temps universel. En tout cas, des règles ont été mises en place pour qu'il y ait davantage d'échanges entre les deux hommes. Les explications de Marie Normand.
La commission pour les débats présidentiels a trouvé un moyen simple d'empêcher qu'un candidat interrompe son adversaire, couper son micro. Ce sera le cas lorsque chacun sera invité à présenter en 2 minutes précises sa position sur chacun des thèmes retenus ce soir. La crise du coronavirus, les questions raciales, le changement climatique ou encore la sécurité nationale. Donald Trump a d'ores et déjà qualifié ces nouvelles règles de très injustes en taclant au passage la modératrice du débat de ce soir pour son manque supposé de neutralité. Ce n'est donc qu'après ces introductions sans interruption que les deux micros seront rouverts en même temps pour permettre enfin les échanges. Et rien ne dit que le ton sera plus courtois que la dernière fois. Un débat aux enjeux de toute façon limités. D'abord parce que ces rencontres télévisées n'influencent pas beaucoup les électeurs en général. Et puis parce que plus de 44 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance ou physiquement par anticipation dans l'un des bureaux de vote déjà ouverts.
Donc débat à partir d'1h du matin, temps universel, depuis Nashville dans le Tennessee. Et à propos de vote, sachez que la Maison Blanche a annoncé que Donald Trump voterait de manière anticipée ce samedi en Floride. Et puis également, concernant l'actualité américaine, le Sénat qui a franchi ce jeudi une première étape vers la confirmation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Concrètement, les 12 élus républicains de la commission judiciaire du Sénat ont voté pour transmettre le dossier à l'ensemble de la Chambre haute du Congrès. Les démocrates ont boycotté le processus. Cela veut dire en tout cas que dès lundi prochain pourrait avoir lieu le vote final en séance plénière et ainsi permettre la nomination de la juge conservatrice à la Cour suprême avant l'élection du 3 novembre, comme le souhaite Donald Trump.
Les États-Unis et la guerre en Irak, c'était en 2003 suite aux attentats du 11 septembre. Une guerre à l'issue de laquelle de très nombreux documents secrets ont été rendus publics.
Oui, ce sont les fameuses révélations du site Wikileaks, la plus grande fuite de l'histoire militaire des États-Unis. Au total, 400 000 documents secrets qui ont été rendus publics. Les révélations de Wikileaks, c'était jour pour jour, il y a 10 ans. Elles ont montré l'ampleur de la violence commise par les forces de la coalition menée par les États-Unis ou la violence couverte par cette coalition. Couverte, ça veut dire violence qui n'a pas été dénoncée. Quel impact ces révélations ont eu ? Notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman, a pu s'entretenir avec un expert de la politique irakienne. Come on, fire.
Ce son est extrait d'une vidéo qui a fait le tour du monde en avril 2010. On y voit un hélicoptère américain ouvrir le feu sur une douzaine de civils, dont deux journalistes de Reuters. La vidéo est publiée par Wikileaks et fait connaître le site mondialement. Quelques mois plus tard, en octobre, il publie quelques 400 000 documents secrets supplémentaires sur la guerre en Irak et impacte largement les relations américano-irakiennes, selon Sajjad Jihad, spécialiste de l'Irak.
Il est difficile de dire que ce qu'a fait Wikileaks a poussé les forces américaines à partir d'Irak. Je n'ai pas de preuves de cela. Mais je pense que cela n'a pas aidé les relations entre l'Irak et les États-Unis. Et je pense que la vision que les gens ici ont des Américains a été impactée par Wikileaks. Quand ils sont revenus en 2014 et puis après, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance en eux.
Ces révélations impliquent les forces américaines, mais aussi et surtout les forces irakiennes, accusées de diverses violences à l'encontre de civils. Mais elle ne provoque pas la surprise en Irak, explique ce spécialiste.
Je pense que pour les Irakiens, chaque fois qu'ils regardaient ce que Wikileaks proposait, cela confirmait le fait que le gouvernement n'était pas vraiment un gouvernement du peuple. Je dirais que la confiance dans les politiciens ne s'est pas rétablie depuis.
Aujourd'hui, c'est en partie pour ces documents que les autorités américaines demandent l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Il risque aux États-Unis 175 ans de prison. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
Moins de 2 semaines après le prix Nobel de la paix, le prix Sakharov a été décerné aujourd'hui.
Oui, le prix Sakharov récompense des personnalités ou organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est le Parlement européen qui décide du lauréat de ce prix Sakharov. Et cette année, il s'agit de l'opposition démocratique en Biélorussie. L'annonce a été faite aujourd'hui. Correspondance à Bruxelles de Johanna Hochstein.
Un message politique fort pour soutenir les citoyens biélorusses qui manifestent pacifiquement depuis 11 semaines consécutives. C'est cela que le Parlement européen a souhaité adresser avec le prix Sakharov, Isabelle Wiesdeler-Lima, eurodéputée luxembourgeoise.
Il faut quand même se mettre dans la peau de ces gens. Ils sortent tous les week-ends dans la rue, ils voient ce qui se passe, ils savent que les personnes sont emprisonnées. N'importe qui, à n'importe quel moment. Il y a eu par exemple une manifestation de retraités. Là aussi, il y a eu encore des violences par les forces de l'ordre, sentir qu'ils sont soutenus aussi au niveau international, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important.
Dans l'hémicycle, on ne se fait guère d'illusions sur l'impact de cette récompense sur le terrain. Il faut poursuivre la pression diplomatique pour obtenir la démission d'Alexandre Loukachenko, explique la présidente de la sous-commission Droits de l'Homme au Parlement, et aussi lutter contre l'impunité, Maria Arena.
Nous demandons aussi qu'il y ait un observatoire des violences et des violations qui ont été commises en Biélorussie pour pouvoir avoir la possibilité de tenir pour responsables les personnes qui ont pratiqué ces violences.
Quelques 14 000 manifestants ont été détenus depuis le début du mouvement de contestation, rappelle le Parlement. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
Et puis du football romain, après la Ligue des Champions hier, ce soir, la Ligue Europa.
Oui, la petite Coupe d'Europe, comme elle est surnommée, un club français. Et sur le terrain, c'est Lille qui se déplace sur la pelouse du Sparta Prague. C'est le début de la seconde période, un but partout entre les deux équipes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Il est 22h10. Ici à Paris.